perdre près de la moitié de ses acheteurs potentiels en l'espace d'un simple battement de cils. C'est la réalité brutale du commerce en ligne aujourd'hui.
Ah ouais, un simple battement de cils, ça pardonne pas.
Ben non, ça pardonne pas du tout. Et du coup, bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur des sources. Le principe ici, c'est de prendre une montagne d'informations, d'articles de fond, pour en extraire l'essence absolue.
Ouais, un vrai raccourci direct vers la compréhension, avec le recul nécessaire pour y voir clair.
Exactement. Et aujourd'hui, on s'attaque à une véritable angoisse pour quiconque gère une boutique en ligne. La peur panique d'avoir un site trop lourd.
La fameuse page obèse qui fait fuir tout le monde.
Voilà. Et pour démystifier tout ça, notre matière première du jour, c'est un article extrêmement fouillé. Il a été rédigé par Samy B.
Ouais, un praticien qui cumule plus de 10 ans de terrain en référencement e-commerce.
C'est ça. C'est un document fascinant publié sur la plateforme de Vanguard Edge Consulting.
Et ce qui rend cette analyse super pertinente, en fait, c'est que ça vient pas d'un théoricien en laboratoire.
Ah non, pas du tout.
C'est quelqu'un qui gère les réalités du terrain au quotidien. Parce que la réalité, quand on voit un outil d'analyse de performance qui clignote en rouge...
Ah, le fameux score rouge qui fait peur à tout le monde.
Grave. La réaction immédiate ressemble souvent à un début d'incendie, tu vois.
C'est clair.
On voit un score médiocre, un indicateur qui hurle que la page est trop lourde, et la première impulsion, bah, c'est de vouloir tout jeter par-dessus bord pour alléger la structure.
Ouais, on panique et on veut tout supprimer. Mais le problème avec ce chiffre rouge, c'est qu'il ment par omission. En fait, il mélange absolument tout.
Il met tout dans le même sac.
Totalement. Donc, l'objectif de notre analyse aujourd'hui, notre mission, c'est de décortiquer cette notion de poids d'une page web.
Et on va voir pourquoi cette panique est presque toujours mal orientée, en s'appuyant sur les données strictes de l'article de Samy B.
Avant même de vouloir supprimer des images ou des fonctionnalités, il faut vraiment se poser une question de base. De quel poids on parle exactement?
C'est la vraie question.
L'analyse commence par un constat qui donne un peu le vertige, honnêtement. En 2015, la page mobile médiane pesait 845 kilooctets.
Ouais, même pas un mégaoctet.
C'est ça. Et aujourd'hui, on est à environ 2,5 mégaoctets. C'est un triplement pur et simple.
C'est énorme comme inflation. Et face à ça, bah, il faut catégoriser. On ne peut pas optimiser un truc qu'on ne comprend pas.
Exactement.
Le diagnostic change du tout au tout selon l'angle sous lequel on regarde le problème, en fait.
Absolument. Et du coup, l'analyse met en lumière trois dimensions très distinctes du poids.
Ok, dis-moi.
La première, c'est le poids du HTML seul. C'est le squelette de la page, le document textuel brut.
Le truc de base que le navigateur reçoit.
Voilà. C'est crucial parce que c'est ce que le robot d'exploration de Google reçoit et lit en premier. Et l'article rappelle une contrainte technique stricte. Une page a une limite de 2 mégaoctets pour son code HTML pur.
2 mégaoctets, ça paraît beaucoup pour du texte, non?
Bah, pour visualiser 2 mégaoctets de texte, c'est grossièrement l'équivalent de 2 romans complets.
Ah ouais, fait quand même.
Ouais, mais attention, au-delà de cette limite, Google ne ralentit pas. Il coupe, il tronche la page, et il arrête pur et simplement de lire.
Attends, il coupe direct.
Direct.
Mais ça représente un danger silencieux massif pour les marchands, ça.
Bah oui, complètement.
Si on prend l'exemple classique d'une page de catégorie de produits...
Avec le défilement infini, là.
Exactement. Le défilement infini, où le code s'accumule ligne après ligne dans le fichier HTML, bah, ça veut dire que les 50 derniers produits de la liste, ceux qui sont tout en bas, ils risquent de ne jamais être explorés par le moteur de recherche.
C'est fou quand on y pense. Pour la machine, ils n'existent pas, quoi.
C'est ça. Même s'ils sont en stock, même s'ils sont prêts à être vendus...
C'est une vraie perte sèche invisible.
C'est clair.
Ensuite, la deuxième dimension, c'est ce qui provoque généralement les sueurs froides. C'est le fameux poids total.
Ah, le gros chiffre qui fait peur.
Le gros chiffre. Là, on prend le HTML, on y ajoute les feuilles de style, les scripts JavaScript, les images, les polices d'écriture.
Tout le package.
Tout. Et c'est ce chiffre massif qu'affichent les outils comme PageSpeed Insights.
Et ça monte vite.
Très vite. Pour donner un ordre d'idée, basé sur les chiffres de Samy B, les images représentent environ 60% de ce poids total. Et le JavaScript médian, bah, il pèse à lui seul 664 kilooctets.
Oui, mais en fait, c'est une mesure de vanité, ça.
Comment ça?
Bah, ce chiffre brut, il est complètement trompeur. Il met dans le même panier des éléments qui sont vitaux pour déclencher une vente et des lignes de code purement superflues.
Ah oui, je vois.
Mais surtout, c'est pas ça qui transite réellement dans les câbles.
Absolument. Et ça nous amène direct à la troisième dimension, qui est la réalité physique, le poids transféré.
C'est là que ça devient intéressant.
C'est là que la magie de l'infrastructure web opère. Ouais. L'article explique que les serveurs utilisent des technologies de compression à la volée. Des trucs comme Brotli ou JZEP.
Des algorithmes de compression, ouais.
Voilà. Et pour bien comprendre comment ça marche, Brotli ne détruit aucune donnée. C'est un algorithme de dictionnaire.
Un dictionnaire? C'est-à-dire?
Bah, il analyse le code, il repère qu'une balise comme « class product card » et les répéter 50 fois sur la page.
Ok.
Et il remplace toutes ces occurrences par un minuscule raccourci.
Ah, malin.
Super malin. Résultat, une page qui pèse virtuellement 10 mégaoctets sur le papier peut n'en transférer que 1 ou 2 sur le réseau.
D'ailleurs, l'auteur pointe très justement ce décalage sur le terrain.
Ouais, c'est le grand écart.
Les équipes paniquent en voyant un rapport Lighthouse qui affiche 4,5 mégaoctets de poids total. Mais quand on ouvre l'onglet réseau des outils d'analyse, bah on s'aperçoit que seulement 1,1 mégaoctet a été réellement transféré aux visiteurs.
La différence est spectaculaire.
Du simple au quadruple, quoi.
Pour bien imager ce mécanisme, moi je suis certaine que l'analogie de la valise marche super bien. Imaginons la préparation d'une valise pour un vol long courrier.
Ok, je vois le genre.
Le poids total, c'est la montagne de vêtements étalée sur le lit. Évidemment, ça semble impossible à faire entrer dans la soute, tu vois.
Ouais, on a tous connu ça.
Mais le poids transféré, c'est cette même pile de vêtements une fois qu'elle est rangée dans un de ces gros sacs sous vide. Le truc où on a aspiré absolument tout l'air.
Ah oui, les sacs magiques, là.
Voilà. Et ce qui compte pour le transfert dans l'avion, bah, c'est la taille du sac sous vide, pas le tas sur le lit.
Ouais, alors, je vais me faire l'avocat du diable sur cette métaphore.
Vas-y, je t'écoute.
Parce que c'est bien beau d'avoir un sac sous vide minuscule pour le transport, mais une fois arrivé à l'hôtel, il faut bien que quelqu'un ouvre ce foutu sac.
C'est vrai.
Qu'il l'aspire dans l'autre sens, qu'il sorte les vêtements un par un, qu'il les défroisse et qu'il les range dans l'armoire.
Ah, tu veux dire côté utilisateur ?
Exactement. Dans notre cas, c'est le navigateur du visiteur. Et souvent, c'est un téléphone portable avec un processeur un peu limité qui doit décompresser tout ce code et l'exécuter.
Ouais, le boulot disparaît pas, il est juste déplacé.
C'est ça. Si on a mis dans le sac des pulls de ski pour aller aux Bahamas...
Donc du code JavaScript inutile ?
Voilà. Bah, le téléphone va quand même devoir le décompresser, le lire, s'apercevoir qu'il sert à rien et enfin l'ignorer. Et ça, bah, ça prend de la puissance processeur et ça fige l'écran.
C'est une nuance super importante. Le poids transféré est géré par la compression, ok, mais le temps d'exécution reste une charge pour la machine finale.
Tout à fait.
D'ailleurs, l'analyse de Vanguard Edge Consulting met le doigt sur un autre coupable qu'on ignore souvent quand on parle de lenteur.
Le serveur lui-même.
Exactement. On s'acharne sur le poids des fichiers alors que la friction vient souvent de la source. C'est ce qu'on appelle le TTFB, le temps de réponse initial.
Le time to first byte.
C'est ça. Si le serveur mouline pendant, allez, 2 secondes et demie, juste pour interroger sa base de données avant même d'envoyer le tout premier octet d'image,
bah c'est mort.
Ouais, la page aura beau peser 10 kilooctets, l'utilisateur va fixer un écran blanc pendant des plombes.
Bon, alors si la compression maîtrise si bien le transfert brut, on arrive à la question qui fâche.
Laquelle ?
Est-ce que les moteurs de recherche pénalisent réellement une page simplement parce qu'elle contient un volume massif d'octets ? Genre, est-ce que ce fameux poids total a un impact direct sur le référencement ?
Eh bien, la réponse apportée par l'article va briser pas mal d'idées reçues, je pense.
Ah bon ?
Ouais. En s'appuyant sur une déclaration directe de Gary Elise, qui est porte-parole chez Google, la conclusion est sans appel. La taille brute d'une page n'est pas un facteur de classement direct.
Attends, attends. C'est complètement contre-intuitif ce que tu dis là.
Je sais.
On passe des années à entendre qu'il faut des sites ultra légers pour plaire à l'algorithme, qu'il faut tout minifier. Et là, on découvre que c'est même pas un critère direct.
Pas direct, non. En fait, ce qui prime pour Google, ce sont les signaux web essentiels.
Les Core Web Vitals.
Voilà. On parle de la vitesse d'affichage de l'élément principal, le fameux LCP, de la stabilité visuelle au chargement et de la réactivité au clic.
Et le poids brut dans tout ça ?
L'article est très clair sur la mécanique. Ces signaux de performance servent de critères de départage, un genre de tie-breaker.
Un tie-breaker, ok.
Si 2 pages ont un contenu d'une pertinence égale, Google va utiliser la fluidité pour décider qui passe de l'an.
D'accord, je vois.
Et l'illustration donnée par l'auteur est redoutable de logique. Une page massive de 15 mégaoctets, mais dont l'infrastructure est bien conçue pour un affichage stable et progressif,
ouais.
Bah, elle battra systématiquement une page de 3 mégaoctets qui reste bloquée par un script mal codé.
Ah ouais, donc la stabilité prime sur le poids absolu. Mais alors, remettons notre cascade de commerçants 2 secondes.
Vas-y.
Si c'est juste un simple critère de départage pour le référencement, pourquoi investir des budgets considérables là-dedans ?
C'est une bonne question.
Pourquoi payer des développeurs une fortune pour gratter quelques dixièmes de seconde si à la fin, le bon contenu l'emporte toujours ? C'est quoi le véritable intérêt de la démarche ?
Et c'est à ce moment précis que l'analyse délaisse la théorie du SEO pur pour frapper avec des données de conversion pure.
À l'argent.
Exactement. Le lien avec le classement sur Google est peut-être subtil, c'est vrai, mais le lien avec le chiffre d'affaires, Lui, il est d'une brutalité absolue.
Vas-y, donne-moi des chiffres.
Les études documentées dans l'article sont effarantes. Déjà, Akamai a prouvé que l'ajout de 2 petites secondes au temps de chargement génère une augmentation de 103% du taux de rebond.
103%?
Ouais, c'est mathématique. Plus de la moitié des gens font demi-tour avant même que la vitrine ne s'affiche.
C'est des ventes mortes dans l'off, ça. Le client n'est même pas rentré dans le magasin.
C'est ça. Et à l'inverse, quand on optimise, les gains sont tout aussi spectaculaires. Par exemple, la plateforme Rakuten a mesuré une hausse de 61% de ses conversions après avoir stabilisé l'affichage de ses contenus.
61% d'acheteurs en plus ?
Ouais, juste en stabilisant l'affichage. Il y a plus parlant encore l'étude menée par le cabinet Deloitte dans le secteur du luxe.
Ok.
Ils ont documenté une progression de 40,1% du taux de passage de la fiche produit vers le panier d'achat.
40% de mise au panier en plus ?
Exactement. Et devine pour quel gain de performance ?
Je sais pas, 1 ou 2 secondes ?
0,1 seconde.
Attends, quoi ?
Un seul petit dixième de seconde gagné.
0,1.
C'est ouf. Et c'est là qu'il faut s'arrêter une seconde pour analyser la psychologie humaine derrière ces chiffres, en fait.
Vas-y, je suis curieux.
Bah, un dixième de seconde, physiologiquement parlant, c'est sous le seuil de perception conscient. C'est littéralement la durée d'un battement de cils.
C'est ce qu'on disait au début, ouais. L'œil ne le voit pas. Mais le cerveau, lui, il le ressent. Sous la barre des 100 millisecondes, le cerveau perçoit l'interface comme une extension naturelle du doigt, tu vois ?
Ah, intéressant ! Donc la navigation est fluide et la confiance s'installe.
Exactement. Mais au-delà de ça, il y a une micro-friction. Et dans un secteur comme le luxe, un délai imperceptible signale à notre subconscient que le site est peut-être fragile.
Ou obsolète, ou peu fiable.
C'est ça. La confiance s'érode silencieusement. C'est pour ça qu'un gain de 0,1 seconde sur 50 000 visiteurs, bah ça se transforme en dizaines de milliers d'euros.
C'est dingue quand on y pense.
L'optimisation, en fait, c'est pas pour faire plaisir à Google, c'est pour asseoir la crédibilité numérique du magasin.
Ouais, cette réflexion psychologique est passionnante. Mais du coup, ça nous place face à un vrai paradoxe technique.
Lequel ?
Ben, si la fluidité génère l'achat, comment on fait pour alléger la page sans détruire ce qui déclenche l'envie d'acheter, justement ?
Ah oui, le contenu riche.
Voilà. Si on reprend notre magasin physique, on va pas démonter les étagères et cacher les beaux produits juste pour que le client puisse courir plus vite dans les allées. Ça n'a pas de sens.
C'est le dilemme quotidien des équipes e-commerce.
Grave.
On veut des belles photos haute définition, on veut des vidéos qui en jettent, on veut des avis clients. Et tout ça, ça pèse super lourd.
Et pour résoudre cette équation, l'analyse de Samibé apporte une grille de lecture vraiment chirurgicale. En gros, il sépare fermement le contenu utile du markup mort.
Ok, le contenu utile d'un côté.
Ouais. Et côté contenu utile, on trouve tout ce qui sert l'humain ou la sémantique de la machine. Par exemple, les données structurées, cachées dans le code, comme schéma.org, qui génèrent les petites étoiles dans les résultats de recherche.
Ça, c'est intouchable.
Intouchable. Et surtout, les images. L'article est formel là-dessus. Même si elles pèsent 60% de la page, il faut absolument les conserver.
Mais on les compresse soi-même.
Ah oui, à condition qu'elles soient dans des formats de compression modernes, comme le WebP ou la VIFF, bien sûr.
Ok.
Et un autre truc sacré, les avis clients. Ils font partie intégrante de ce contenu utile.
Et ça, c'est parfois super difficile à faire entendre aux équipes techniques.
Ah bon ?
Bah ouais. Avec une logique purement mathématique, un d'œuf pourrait se dire « Tiens, le module d'avis client pèse 400 kilooctets. Si je le supprime, mon score de vitesse va s'envoler. »
C'est la solution de facilité.
Exactement.
Eh bien, figure-toi que la source partage une anecdote terrible à ce sujet, un vrai cas d'école. Un client de l'auteur, dans le secteur de l'ameublement, a testé cette idée exacte.
Il a osé ?
Il a osé. Il a carrément désactivé l'affichage de ses avis clients pour aller plus vite.
Et alors, résultat ?
Le résultat technique a été immédiat. Un gain direct de 15 points sur son score de performance de page.
Ah bah mission accomplie pour les développeurs, ils ont dû sabler le champagne.
Ouais, sauf que la répercussion commerciale derrière. Aïe, les conversions ont chuté de 12%.
12% en moins sur les ventes, ouche !
En voulant gagner des millisecondes, le gars a supprimé la preuve sociale, la fameuse réassurance psychologique dont un visiteur a absolument besoin avant d'acheter un canapé à 1000 euros en ligne.
C'est l'exemple parfait de l'optimisation aveugle. Tu cours super vite, mais dans le mur.
C'est exactement ça. Donc la cible à abattre, c'est définitivement pas le contenu visuel ou social. C'est les fantômes du passé.
Ce que l'article appelle le « markup mort ».
Voilà, le markup mort. Et là, la mécanique est fascinante d'inefficacité.
C'est-à-dire ?
Prenons l'exemple des applications tierces sur des plateformes comme Shopify. L'équipe marketing installe une super application de compte à rebours pour le Black Friday.
Le truc classique.
La promotion se termine, l'équipe clique sur « Désinstaller » dans le tableau de bord. Fini. Sauf que, très souvent, cette désinstallation laisse derrière elle un bout de code JavaScript injecté dans l'entête du site.
Ah, le bout de code orphelin.
Ouais. Et pendant des mois, voire des années, chaque nouveau visiteur va télécharger ce fichier inutile. Le processeur du téléphone va s'efforcer de le lire, chercher à l'exécuter, ne rien trouver à faire et finalement l'abandonner.
C'est absurde.
C'est une perte d'énergie totale. L'analyse estime que nettoyer ces scripts orphelins permet de récupérer entre 300 et 800 kilooctets de poids par page.
Sans rien changer au visuel.
Sans retirer une seule once d'information visuelle à l'acheteur. Que du gras.
C'est énorme. Mais du coup, ça amène inévitablement une réflexion d'ordre architectural, tu vois.
Comment ça?
Puisqu'on jongle en permanence entre le besoin d'images lourdes pour convaincre l'humain et le besoin d'un code textuel ultra léger et rapide pour plaire aux robots de Google.
Ouais.
Pourquoi on ne sépare pas les deux mondes, tout simplement?
Tu veux dire deux versions différentes de la page?
Ouais. Techniquement, on pourrait très bien concevoir une version minimaliste, sans chichi, envoyée exclusivement au moteur de recherche quand il passe. Et on garderait une version super riche et visuelle pour les utilisateurs réels.
Ah, la fameuse ruse. La question est extrêmement tentante, je te l'accorde.
Bah, ça résoudrait tout le problème, non?
Sauf que l'analyse l'IA y répond avec une mise en garde hyper sévère qui est basée sur les règles strictes édictées par les moteurs de recherche. Google s'y refuse catégoriquement.
C'est interdit.
Totalement. Tenter de séparer l'humain et la machine, c'est mettre le doigt dans un engrenage fatal qu'on appelle le cloaking.
Le cloaking. Il faut bien comprendre comment Google détecte ça aujourd'hui. C'est plus les années 2000, tu vois.
Ouais, l'algorithme a évolué.
Il y a 10 ans, le robot d'indexation lisait juste le texte brut, bêtement. Mais aujourd'hui, Googlebot utilise un vrai navigateur sans interface graphique pour littéralement dessiner la page en interne.
Il fait un rendu complet.
Exactement. Il compare le code brut avec ce qui s'affiche visuellement. S'il remarque que le code envoyé à la machine parle gentiment de chaussures de sport, mais que le rendu visuel caché montre des liens vers des casinos en ligne...
Alerte rouge immédiate.
Alerte rouge, pénalité, terminée.
Et pour donner une échelle de cette surveillance, la source de Vanguard Edge Consulting rappelle un chiffre dingue. Les systèmes de Google interceptent environ 40 milliards d'adresses web, considérées comme du spam chaque jour.
40 milliards par jour.
Par jour. Donc l'algorithme a une capacité de détection des incohérences qui est colossale. La règle imposée aux marchands, elle est inflexible.
Un seul document pour les gouverner tous.
C'est ça. Un seul et unique document HTML, propre et identique pour tout le monde. L'humain et la machine. D'ailleurs, les données structurées présentes dans ce document unique servent précisément de traducteur officiel pour les machines. Donc, inutile de ruser.
Ok, le message est clair, ce qui nous ramène inexorablement à la case départ. Plutôt que de chercher des subterfuges ou de tricher avec deux versions, bah, il faut nettoyer ce document unique avec une précision de chirurgien.
Exactement. Et fort de cette certitude, on arrive au moment le plus pragmatique de notre analyse.
La phase d'action.
Voilà. Face à ces révélations, la réaction immédiate, c'est forcément de se demander si nos propres pages transportent des centaines de kilooctets de scripts morts qui ralentissent nos ventes.
C'est la question que tout le monde se pose, là.
Et la bonne nouvelle, c'est que l'article de Samy B partage une méthodologie d'audit manuelle.
Pas besoin de payer à un outil hors de prix.
Non, ça nécessite aucun abonnement à des outils premium. Tout se passe directement dans le navigateur Chrome.
L'outil de développement intégré, le fameux DevTools, le couteau suisse des développeurs.
C'est ça. L'action concrète recommandée, c'est d'aller sur son propre site, de faire un clic droit n'importe où et de sélectionner « Inspecter ».
Ok.
Ensuite, on ouvre l'onglet « Réseau » ou « Network » si le navigateur est en anglais.
Et c'est là que la magie opère.
Et c'est là que l'illusion se brise, ouais. Il ne faut surtout pas regarder la colonne globale en bas, mais bien cibler la colonne qui s'appelle « Size » ou « Taille ».
Pourquoi celle-là spécifiquement ?
Parce que c'est cette colonne spécifique qui affiche le poids réellement transféré sur le réseau. Le fameux poids compressé dont on parlait tout à l'heure avec l'histoire du sac sous vide.
Ah oui, la vraie taille de la valise.
Voilà. C'est elle qui reflète la vraie friction subie par la connexion Internet du visiteur sur son téléphone dans le métro.
C'est super concret. Et une fois qu'on a la vraie mesure sous les yeux, on fait comment pour traquer les anomalies ? On lit tout ligne par ligne ?
Non, la méthodologie conseille d'utiliser les filtres de cet onglet réseau. On clique d'abord sur le filtre GS pour isoler tout le JavaScript de la page.
OK.
Et en regardant la liste des fichiers qui se chargent, l'objectif, c'est de repérer les noms de domaines externes. Est-ce qu'on voit passer un script appartenant à un outil de chat qu'on a abandonné il y a 2 ans?
Ou un module de statistiques qu'on regardait jamais?
C'est ça. C'est là qu'il faut identifier ces parasites et demander à les faire supprimer. Ensuite, on passe au filtre des images.
Pour traquer les mauvaises compressions.
Exactement. On vérifie visuellement si des bannières gigantesques sont chargées dans des formats super anciens, comme le JPEG non optimisé, plutôt que de bénéficier de la légèreté des formats modernes comme le WebP ou la VIF.
C'est un audit d'hygiène numérique d'une simplicité redoutable, en fait.
Ouais.
Mais je suis convaincu que c'est là que se cachent les gains de rentabilité les plus rapides pour beaucoup de marchands.
Tout à fait. C'est là qu'on trouve l'or, en fait. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent suivre cette méthodologie pas à pas en ayant les vraies captures d'écran sous les yeux...
Ouais, pour bien visualiser.
Ou juste revoir le détail des données strictes qu'on a citées, ou comprendre encore plus finement l'impact psychologique du temps de réponse serveur, il est vraiment impératif d'aller lire l'analyse complète.
Bon, on la trouve où ?
L'article est accessible sur vanguardedgeconsulting.com/blog/taille-page-web-SEO-e-commerce. Je répète, vanguardedgeconsulting.com/blog/taille-page-web-SEO-e-commerce.
C'est une ressource vraiment dense, super documentée, qui remet bien les pendules à l'heure sur ce qui compte vraiment.
Absolument.
Et tu sais, en fermant cette analyse, il y a une réflexion beaucoup plus globale qui émerge, je trouve, et qui dépasse très largement le simple cadre de la technique web.
Ah oui, tu penses à quoi ?
On a vu avec les données de l'étude de Deloitte qu'il y a un délai de 0,1 seconde.
Le fameux clin d'œil.
Ouais. Une fraction de temps littéralement indétectable par la conscience humaine, ce truc-là pouvait détruire 40% de la progression vers l'achat dans certains secteurs hyper exigeants.
C'est énorme.
Et la question qui se pose alors, et qu'on va laisser ouverte pour la suite parce qu'elle donne le vertige, c'est si un obstacle microscopique et invisible a un tel pouvoir de destruction sur les décisions d'achat en ligne,
ouais.
Quelles autres frictions invisibles, psychologiques ou ergonomiques, qui sont tolérées par simple habitude au quotidien dans nos parcours clients ?
Oh waouh, je vois où tu veux en venir.
Quelles autres frictions sont en train de siphonner silencieusement le chiffre d'affaires des boutiques en ligne à cet instant précis ?
C'est une excellente question pour continuer d'explorer les coulisses de la conversion, ça. Ça donne matière à réfléchir.
Grave.
Merci d'avoir plongé avec nous dans ces sources aujourd'hui et à très vite pour une nouvelle analyse en profondeur.